en dire et des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. L'affiche du film montre une table de fête dressée dans le jardin d'une grande maison familiale. Au bout de la table, Catherine Deneuve joue Andrea. Avec son mari, elle a réuni sa famille pour son anniversaire. Les deux fils, joués par Vincent Macaigne et Cédric Kahn, venus avec compagnes et enfants. Et surprise, la fille Claire, incarnée par Emmanuelle Berco, s'est invitée, elle aussi, au tout dernier moment. Étrange, elle qui était partie depuis plusieurs années, disparaissant sans crier gare, en laissant derrière elle sa fille. Ainsi sont posées les bases d'un film de famille, au dialogue ciselé, un quasi huit clos, parsemé de scènes de tendresse et de disputes, de complicité et d'incompréhension, de grands mots qui blessent et de petits signes d'amour, bref, de moments terriblement humains, tout simplement. Fête de famille, le nouveau film de Cédric Kahn sort mercredi sur les écrans français, et vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour.
Ah,
bonjour. Ah, mais je vous attendais plus tôt.
C'est Rosita.
Je suis Vincent, le frère de Romain.
Enchanté.
Il est courageux de vous amener ici.
Allô ?
Maman, c'est moi, c'est Claire.
Tu restes où tu es, on vient te chercher, on vient tout de suite. Hein.
J'ai pas de cadeau pour maman.
On s'en fout, le cadeau c'est toi.
Tu m'as tellement manqué.
Elle disparaît pendant 3 ans et quand elle revient, on doit se plier à ses 4 volontés.
C'est pour ça que t'es revenu, pour récupérer ta
thune. Oui, absolument.
C'est indiscutable, on a de l'argent à Claire. Pour le montant, ben, on verra.
Mais non, 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 y a pas à discuter du montant.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. On est bien là, non ?
Ça a vraiment un rapport un peu spécial au pognon. Hein.
J'ai l'impression que ça vous arrange bien de penser qu'elle est folle.
Si, si, je t'assure, elle est 100% folle.
Je vous présente Sébastien, un ami de lycée. On a eu une petite histoire à l'époque, mais maintenant il est agent immobilier et marié.
En fait, je ne suis pas Sébastien, je suis Fabien, son frère.
Il vient faire une estimation de la maison.
Bon, bah alors on vend.
Tu veux pas qu'on en discute tranquillement tous ensemble ?
Je fais ce que je veux.
Ça va partir en sucette exactement comme d'habitude.
Je crois que mon frère préfère s'arranger à l'amiable.
Putain, c'est le numéro de mon frère ! Tu peux te payer 3 voitures comme ça, alors tu paieras, voilà ! Un peu de générosité, là !
Ça va ?
Ça, bon, ça ne va pas, maman.
C'est l'angoisse. Cette maison, cet anniversaire, cette famille.
Romain,
vous êtes ma famille, ma seule famille, et je vous aime.
C'est quand même quelque chose de nous voir tous réunis avant que tu passes l'arme à gauche. C'est sur quoi ?
C'est sur la famille.
Ah sérieux, vous faites une pièce sur nous ?
Ouais, je vais tout balancer.
Bonjour Cédric Kahn.
Bonjour.
En juillet dernier, lors des ciné-rencontres de Prades dans les Pyrénées, vous expliquiez à mes confrères de l'Indépendant des Pyrénées que vos films suivaient l'évolution de votre vie. Alors je suis un petit peu inquiet sur l'évolution de votre vie. Pourquoi maintenant ?
Ah bah parce que j'étais mûr. C'est un sujet pas simple, même si le film est habillé de fantaisie et de comédie. Le sujet qui émerge là déjà dans la bande-annonce, et voilà, c'était un sujet que je voulais faire depuis longtemps et il me fallait cette maturité.
Alors vous êtes le réalisateur, le co-scénariste et l'un des acteurs du film. Comment est-ce que vous l'avez composé, cette famille? Parce que je parlais de la photo de l'affiche au début, et c'est vrai que c'est aussi d'abord un travail de composition, parce que c'est un film de personnage, c'est un film d'acteur.
Ouais, c'est un travail d'alchimiste. On fait ça avec mon collaborateur Antoine Carrard, avec qui je travaille depuis très longtemps, et en fait l'idée c'est que l'illusion soit parfaite, hein, c'est le cinéma. C'est vrai qu'on voit l'affiche, on a l'impression d'une famille, et puis c'est ce que, voilà, même dans les grandes scènes de repas, dans le film, on a des fois vraiment l'impression d'être à table avec eux. Alors qu'effectivement, chacun est un acteur qui a une autre vie et une autre famille.
Alors, Catherine Deneuve, c'est la matriarche, hein, c'est elle qui fête son anniversaire. Et il y a les deux fils, les deux frères. Alors, très différents, hein, les deux frères. Hein. Il y a Vincent Macaigne, qui est un peu gaffeur, voire même très gaffeur, qui est un peu le loser, il est un petit peu dingue, mais
ouais,
très attachant.
Il est presque plus manipulateur que gaffeur, hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il sait où il va. Hein.
Il sait où il va. Hein. Donc voilà. Et puis il y a Vincent. Alors Vincent, c'est drôle parce que Vincent, il y a Vincent Macaigne et le personnage qui s'appelle Vincent. C'est Cédric Kahn, donc voilà. C'est vous-même.
À préciser que les prénoms sont donnés avant qu'on choisisse ces acteurs.
Ah d'accord, ça n'a rien à voir,
non,
c'est
non,
pas
c'est...
un petit clin d'œil.
Non.
Bon, ça simplifie pas le travail du journaliste. Mais enfin bon, donc voilà. Donc Vincent, c'est votre personnage, Cédric Kahn. Alors lui, c'est le garçon qui a un petit peu réussi, un petit peu mieux que les autres, un peu moralisateur.
Ouais, un peu psychorigide.
Oui, donc un peu c'est celui qui empêche un peu les autres de faire des bêtises, ou qui voudrait,
oui,
en tout cas.
Oui, c'est celui qui s'est donné soit le bon, soit le mauvais rôle, selon comment on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et en tout cas, il essaie d'incarner l'ordre et la loi dans une famille construite grandement sur le désordre et le chaos. Et donc, finalement, à l'autre extrême, il est aussi un peu mis au banc de la famille.
Oui, et puis, il y a aussi donc la fille. Alors, la fille, c'est Emmanuel Berco, le personnage s'appelle Claire. Alors, autant les deux frères sont sur des positionnements relativement clairs dès le début du film, autant le personnage de Claire, c'est un personnage extrêmement mystérieux que l'on découvre même jusqu'à la fin, quoi, d'une certaine façon. Cédric Kahn, comment est-ce que vous l'avez imaginé,
ce personnage? C'est l'idée du scénario, en fait. C'est presque une enquête sur elle, hein. C'est-à-dire que elle déboule littéralement dans le film, et à partir de là, toutes les conversations vont tourner autour d'elle, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. C'est-à-dire qu'elle arrive à prendre le centre de la fête, et effectivement, au fur et à mesure, il y a le scénario est construit avec des rebondissements, en fait, et au fur et à mesure, on approche sa personnalité. Et en fait, la question principale étant, est-elle dingue ou pas, en fait? C'est la question sur laquelle tout le monde a un avis. Alors, certains disent, bah non, elle est pas dingue, c'est la famille qui est dingue, et d'autres disent, bah non, elle est complètement dingue, il faut l'enfermer. Et voilà. Et c'est comment va se construire la réaction familiale, la réaction du groupe face au vent de panique qu'elle amène, en fait.
Alors, il y a la question du personnage de Claire, de la réalité de ce qu'elle est, et de ce qu'elle a été aussi, parce qu'il y a effectivement des choses assez lourdes qui se sont déroulées dans cette famille. Et puis il y a aussi l'autre enjeu, qui est l'enjeu majeur, c'est la maison. Alors la maison, elle est présente évidemment d'un bout à l'autre du film, c'est presque un personnage.
C'est lié, en fait, c'est la même histoire. C'est que de même que cette femme considère qu'elle est exclue de cette famille, ou s'exclut d'elle-même de cette famille, elle sent aussi qu'elle a été exclue de cette maison. C'est la même chose, en fait. La famille et la maison, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est cet endroit qui semblerait être un endroit de partage pour tout le monde, et qui est aussi l'enjeu de tous les conflits.
Voilà, au début d'ailleurs du film, la maison s'ouvre pour le spectateur à travers la caméra là qui passe dans l'allée. On a vraiment l'impression d'entrer dans une forme de huis clos, quoi.
C'est la présentation d'un décor, c'est une forteresse aussi un peu, hein. Ouais. C'est comme si voilà,
un petit côté pont-levis.
C'est comme si cette famille vivait enclavée. Et effectivement, la maison va devenir un enjeu important et en même temps dérisoire. C'est-à-dire qu'assez vite, quand cette chose autour de la maison va se régler, finalement, on va se rendre compte que sous les pavés, il y a un problème bien plus psychologique, en fait.
Tu veux tous nous mettre à la rue, en fait?
Mais non, je veux mettre personne à la rue. Je veux juste récupérer ce qui m'est dû. Je vois aucune raison pour que vous viviez tous tranquillement, là, dans mon pognon, pendant que moi, je crève la misère.
C'est pour ça que t'es revenu, pour récupérer ta thune.
Oui, absolument. Et puis après, cet argent, il sera pour toi.
Je m'en fous, te sers pas de moi.
Claire, elle a raison, hein. Faut pas être trop conservateur. Cette baraque, vous la vendez, vous achetez un camping-car, vous êtes libre, et puis voilà, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, parce que votre pierre tombale, vous en serez bien propriétaire.
Tu sais, Claire, si on fait le compte de tout ce que papa et maman ont dépensé pour toi depuis toutes ces années, là, c'est plutôt toi qui leur donnes de l'argent.
N'importe quoi, personne n'a jamais rien payé pour moi.
Et puis, je parle pas d'Emma qui vit ici depuis qu'elle est née.
Non, arrêtons, ça suffit maintenant. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses.
Oui, comme quoi, là, les vacances véganes au Portugal, c'est ça?
Oh. On est bien, là, non?
Voilà, on est bien, non, dit Catherine Deneuve. Alors, on rit jaune, évidemment, hein, Cédric Kahn, pourtant... Quand même, dans cette famille, on se dit finalement qu'on n'est pas si mal que ça, parce qu'on peut se dire des choses horribles, des choses extrêmement drues, extrêmement cash, on peut se faire mal, y compris parfois de façon volontaire, mais quand même, qu'est-ce qu'on s'aime?
Ouais, qu'est-ce qu'on s'aime, qu'est-ce qu'on se parle, qu'est-ce qu'on s'exprime. Voilà, il y a de la fantaisie, il y a de l'amour aussi, il y a beaucoup d'amour qui s'exprime. Moi, c'est vrai que c'est pas mon cas, mais ça m'est déjà arrivé d'être dans des familles silencieuses, et je trouve ça presque pire, en fait.
Oui, c'est-à-dire que même on sent qu'effectivement parfois les choses vont exploser, et c'est pas grave. La cocotte minute, elle va parfois effectivement exploser, mais on arrive à reconstruire derrière la catastrophe. On arrive à tourner la page ou à faire comme si c'était rien passé. Et ça, c'est très étonnant.
Ouais, c'est une famille, c'est pas très éduqué, en fait, comme mode de rapport. Et même les enfants, on les voit, les petits sont pas très éduqués. Donc, mais du coup.
Oui, ils sautent partout. Voilà, ils boivent du
vin, tout ça. Mais il y a une forme de liberté. Et il y a un droit à la fantaisie. Et il y a un droit à la...
spontanéité, à l'instinct, quoi.
À la fête, en fait. On chante, danse, on fait des pièces de théâtre, on fait des spectacles et tout ça. Donc, je voulais aussi montrer que dans cette folie-là, il y avait quand même quelque chose de très, très vivant et très joyeux.
Alors, Romain, effectivement. Donc, le personnage de Vincent Macaigne est réalisateur, cinéaste. Enfin, en tout cas, il a une caméra et il vient faire un film et il veut que les membres de sa famille y participent. Ce qui est l'occasion, d'ailleurs, d'un vrai débat, parce que tout le monde est pas tout à fait d'accord. Votre personnage, à vous, en l'occurrence, ne l'est pas. Et effectivement, les enfants préparent une pièce de théâtre aussi sur la question de la famille. Donc, en fait, Et on voit d'ailleurs dans le film la pièce de théâtre, et c'est un moment pour moi aussi extrêmement émouvant, cette pièce de théâtre, parce qu'on a tous joué plus ou moins ce genre de petites scènes dans son propre cadre familial, ou alors on a assisté à ce genre de petites scènes, et c'est vraiment un moment très 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 réussi et très très émouvant du film. C'est vraiment avec trois bouts de ficelle, et en même temps ça dit énormément de choses. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, à travers le film du personnage de Romain et cette pièce de théâtre des enfants, mettre en quelque sorte deux mises en scène dans votre mise en scène à vous?
Je trouvais que cette j'aimais bien que dans cette famille il y ait de l'expression, qu'il y ait une envie d'être artiste, au contraire de mon personnage à moi qui est un peu le chef d'entreprise, celui qui gagne de l'argent. C'est cette famille finalement est un peu à la marge. Il n'y a pas que le personnage d'Emmanuel Berco qui est une marginale, c'est l'ensemble de la famille. Ils vivent comme ça dans une maison très bourgeoise, mais c'est pas des bourgeois, c'est plutôt des bohèmes, je dirais. Et puis j'aimais bien les mises en abîme, j'aimais bien que chacun donne un peu son point de vue, j'aimais bien que la fiction soit la création, soit un peu comme un quelque chose qui permette d'évacuer la tragédie ou le voilà, ou les larmes.
C'était des moments de réoxygénation, quoi, d'une certaine façon.
De réparation.
Pour pas rendre le film trop noir.
Ouais,
parce qu'il aurait pu être beaucoup plus sombre.
Mais dans ces mises en abîme, il y a des messages à chaque fois. Par exemple, dans la pièce de théâtre, effectivement, il y a de la nostalgie, mais se joue aussi quelque chose entre la jeune fille de Berco et
oui, il y a un message, effectivement, qu'elle essaie de faire passer. Alors, il y a une scène de danse, aussi au salon, qui est vraiment une scène de groupe. Là aussi, on trouve ça à la fois très attendrissant et un petit peu drôle quand même aussi. Il y a beaucoup de passages chantés, aussi, qui sont souvent des moments de vraie complicité d'ailleurs entre les personnages, ou au contraire des moments de solitude. Le chant, la chanson pour vous, Cédric Kahn, c'est un médium particulier par rapport au jeu d'un acteur?
En tout cas, j'avais besoin de ces interstices, j'avais besoin que justement les moments, d'avoir ces moments de tendresse entre les grands moments d'affrontement. Ouais. Et par exemple, la scène où on danse, elle est aussi très scénaristique, c'est-à-dire que c'est un moment où de bascule du personnage joué par Emmanuel Berco, et puis nous on est là, c'est comme vous dites, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une tension trop forte, hop, on s'échappe par le déni et on fait semblant. Il y a une grande capacité à faire semblant.
Voilà. Alors à propos de tension trop forte, il y a la scène de l'accident de voiture, puisque votre personnage, eh bien, il a une très belle voiture. On va pas donner la marque à l'antenne, mais enfin, c'est une belle voiture. Alors que son frère, lui, qui est fauché, eh ben, il en a pas. Et un jour, il pique la voiture de son frère, et évidemment, il va la plier.
Pourquoi tu lui as filé la bagnole? Il l'a défoncé, là.
Il m'avait dit qu'il ferait attention.
Mais comment tu peux lui faire confiance? Il l'a pris pour acheter de la beuh, ils ont même pas attendu de revenir pour fumer.
Non, bah on serait bien prêt à t'en prêter un peu de la drogue, ça pouvait un peu te rendre plus zen.
Hey, oh, ferme ta gueule.
Ferme ta gueule?
Ouais.
Ferme ma gueule, je vais la fermer, ma
ferme
gueule.
Ferme ta gueule!
Redis-le!
Ferme ta gueule!
Qu'est-ce qui se passe?
Il a défoncé ma bagnole!
Oh là là, quelle affaire! Attends, t'en cries comme ça, moi je croyais qu'on t'avait coupé un bras!
J'ai rien pu voir. Maman, la voiture, elle est venue de la gauche, mais c'est... Arrête de dire n'importe quoi, elle t'a tapé à droite.
Mais qu'est-ce que ça change?
Ça change que pour une fois, elle va payer. Mais non, je peux pas payer, putain! T'es bouché ou quoi, putain? Je n'ai pas d'argent, d'accord? Revends ta caméra!
Postillon.
Ma caméra, on me l'a prêtée! Démerde-toi, j'en ai rien à foutre.
Ah, pitié, les garçons, pitié. Ça suffit. Moi, je la paierai, cette réparation.
Mais quand est-ce que ce sale gamin sera mis face à ses responsabilités, là? Où tu vas tout le temps le protéger comme un attardé mental.
Mais puisqu'il a pas les moyens de payer.
Mais toi non plus, t'as pas les moyens de payer. Personne n'a de quoi payer dans cette famille, c'est bien ça le problème.
Oh, calmez-vous là. Et toi, pourquoi tu cries comme ça?
Mais parce que Romain a défoncé ma bagnole et maman veut payer pour lui.
Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire?
Ben ça peut me faire qu'elle payera jamais, tu le sais très bien. Vous me devez encore 5000 euros pour la fosse sceptique.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fosse sceptique? Où t'as été chercher ça encore? Tu sais
pas? Non, j'ai pas de souvenir.
Quoi? Vous voulez voir la facture, c'est ça?
Alors, donc, c'est vous qu'on a entendu dans le rôle du fils.
Désolé.
Du fils en colère. Alors, vous êtes acteur aussi. Vous dirigez des acteurs chevronnés comme Catherine Deneuve, d'autres directeurs d'acteurs, comme Emmanuel Berco ou Vincent Macaigne, qui sont des metteurs en scène de théâtre et de cinéma, dont les personnages vraiment partent en sucette dans des scènes extrêmement fortes comme celle dont on vient d'entendre en extrait. Et puis des acteurs beaucoup plus jeunes comme Luana Bajrami, qui jouait Emma, la fille de Claire, et qui est vraiment vraiment formidable. Est-ce que tous ces acteurs-là, avec ces parcours si différents, on les dirige de la même façon?
Oui, parce que on les dirige pas. Enfin, moi, j'ai jamais cru vraiment à la direction d'acteur au sens que je crois au talent de l'acteur, je crois à l'instinct, à l'autonomie de l'acteur. Donc voilà, je pense que quand je confie un rôle à un acteur, il doit en faire quelque chose. Après, effectivement, on doit guider, on doit enlever les défauts et tout ça, mais c'est des choses un peu à la marge. Et évidemment, quand on joue avec les acteurs, c'est plus compliqué, parce que j'étais aussi concentré sur ma partition. Mais voilà, non, on choisit des bons acteurs. Ça, je crois que c'est déjà la première des choses.
Mais les textes, ils sont écrits au cordeau.
Ouais.
Il n'y a pas un mot de plus que ce qui est prévu. Si, il y a une part d'improvisation quand même.
Il y a des mots de plus, mais le rythme et les réponses sont vraiment la partition du scénario. Ouais.
Voilà, donc il y a beaucoup de phrases qui se coupent. Donc tout ça participe évidemment de la rythmique du film. Et puis il y a ceux qui parlent, mais il y a aussi ceux qui ne parlent pas. Et ça, c'est peut-être à la limite plus intéressant encore, parce qu'il y a le texte et le sous-texte, et on dit beaucoup à travers les silences, à travers des regards, à travers des petits sourires, à travers des mous, ou simplement un petit geste, et la caméra, elle joue avec ça.
Ouais, puis il y a ceux qui sont autorisés à parler, c'est à ceux qui font vraiment partie de la fratrie, les trois frères et sœurs, la mère, la petite fille, puis toutes les pièces rapportées, qui sont un peu spectateurs, pris en otage par cette situation, donc qui ont des interventions beaucoup plus brèves, mais effectivement, et qui sont aussi un peu notre point de vue de spectateur, c'est-à-dire que soit on peut s'identifier à la famille, ou on peut aussi s'identifier à ceux qui observe.
Mais souvent, les personnages, lorsqu'ils parlent, eh bien, les caméras ne les regardent pas. Et inversement, quand les personnages bougent, parfois la caméra est fixe. Quand ils ne bougent pas, hein, comme là, des scènes de repas, c'est la caméra qui tourne autour de la table. On est intérieur et extérieur, c'est ça votre idée ?
Ouais, enfin moi je voulais vraiment qu'on ait la sensation d'être à la table, hein, que le spectateur puisse se sentir comme un des convives. C'est pas tellement qu'on filme ceux qui parlent pas, c'est que souvent à l'image il y a 4-5 personnes en même temps,
donc le regard du spectateur choisit.
Voilà, le regard peut se promener et sur des gens qui parlent et sur des gens qui parlent pas. Et ce qui était vraiment impressionnant, et je le sentais ça en direct quand on jouait, c'est que tout le monde jouait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait une intensité aussi de l'écoute, par exemple les enfants. Dans les scènes un peu dramatiques, ils écoutent, ils ont des regards à la fois effrayés, mais ils perdent pas une miette de ce qui se passe. Et ça raconte vraiment la famille pour moi.
Mais c'est au montage, après, que les choix ont été faits, ou bien vous aviez déjà des intentions au départ?
Non, pas seulement, parce que les gens sont filmés ensemble, ils sont dans la même image. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que l'image soit riche, en fait. Je mets beaucoup de temps dans le film à séparer les gens, en fait. C'est vraiment à la toute fin du film qu'on commence à faire des plans séparés, ce qu'on appelle les gros plans. Et là, il commence à y avoir une expression vraiment individuelle. Mais pendant très longtemps, le film avance comme un pack de rugby, en fait. Ça avance comme ça. C'est le groupe qui avance.
Alors, vous parliez d'enquête tout à l'heure, Cédric Anne, à propos du personnage d'Emmanuel Berco. Et c'est vrai que le spectateur, il a envie forcément de s'identifier, il a envie d'en savoir plus, il a envie de savoir qui ment ou qui ne ment pas, qui donne les choses d'un point de vue différent, parce que c'est vrai qu'il est obligé de se sentir proche de tel ou tel personnage, et peut-être même parfois de changer de camp, hein, au cours du film, parce qu'il y a aussi des renversements d'alliance au sein de cette famille. Les choses sont tout sauf figées. Est-ce que vous avez voulu balloter, perturber, déranger le spectateur?
Absolument.
Eh bien, c'est réussi.
J'assume. Je voulais. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations. Il y a quelques vérités qui sont des fois encore plus cruelles que les mensonges. Et donc, en fait, il y a des surprises. Du coup, le scénario fonctionne en chausse-trappe et on découvre des choses au fur et à mesure. Et donc, notre identification, notre empathie évolue au fur et à mesure des surprises. On se dit ah quel salaud, ou on se dit ah bah non elle a raison, ou bah non c'est finalement la famille qui a raison. Voilà. C'est un peu le clan contre la fille qui revient, la fille prodigue. Donc on se dit soit que c'est le clan qui est cruel avec elle, soit que c'est elle qui est terriblement cruelle avec le clan.
Voilà, on n'arrête pas de se poser des questions, y compris d'ailleurs après la fin du film. Merci beaucoup Cédric Anne, et je donne rendez-vous à tous nos auditeurs mercredi donc pour découvrir Fête de famille sur les écrans français. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis
l'alchimiste du volume. On m'appelle pour fabriquer toutes sortes de choses. Ça peut aller de faux chocolat, de faux fromage, de faux, plein de choses fausses qui sont difficiles à photographier en studio, dans un studio de photo ou quoi. Mais aussi pour faire des grosses sculptures ou des effets très spéciaux, où il faut plein d'accessoires très spéciaux ou des choses qui n'existent pas, qu'on peut pas acheter dans le commerce. Et donc on nous commande des objets. Je m'appelle Sébastien Bell et je suis model maker. Je travaille actuellement pour un projet artistique d'un artiste qui s'appelle Tamás Zanko, qui est mort aujourd'hui. Et qui avait imaginé dans les années 70 une tour à la place du Palais Omnisports de Bercy à Paris, qui allait montrer beaucoup de stades de sur l'architecture. C'est-à-dire, cette tour partait des pyramides égyptiennes. Ensuite, il y avait un morceau du Colisée, la tour de Babel, comme on voit sur les tableaux de Bruegel. Ensuite, un passage gothique, et puis ça allait dans la Renaissance, etc. Cette tour qui devait faire 160 mètres sur les plans, là, on l'a fait au 1 centième, à l'échelle 1 centième. Et donc, elle va faire 1 mètre 60. Je remesure chaque élément, il faut décider des tailles que les colonnes de chaque élément vont faire, les tailles des fenêtres. Il va y avoir des éléments qui sont... Il y a un morceau de tour Eiffel, donc ça va être en métal. Il y a des morceaux sur le tout en haut. Bon, il y a des morceaux, c'est Gaudi. Ensuite, tu as des buildings en verre. Donc là, il va falloir travailler des plastiques qui brillent, qui sont miroités, etc. Et ça se termine par une toute petite grue qui est tout en haut parce que le projet n'est jamais fini tant que l'humanité continue, quoi. Je viens de mixer tout mon silicone pour créer mes moules. De toutes les colonnes de la tour, il y a peut-être 80 colonnes différentes sur la tour et j'allais pas les sculpter les 80 indépendamment. Donc voilà, on crée un moule et ensuite on peut couler de la résine dedans et on a une reproduction, on peut en refaire des centaines. Voilà. Sur le lapidaire, là je remets toutes les arêtes bien droites, c'est une grosse ponceuse qui tourne en rond et ça remet tout droit. Là, je suis en train de travailler le haut des petites colonnes qui sont en haut du palais de Renaissance sur la maquette. C'est tout petit et j'utilise une petite fraiseuse, un peu comme chez les dentistes, pour resculpter tous les chapiteaux des colonnes, etc. C'est un gros boulot, c'est très très long. Et voilà, ça c'est une petite couche d'encre à l'aéro pour terminer cette petite façade. Ça c'est assez délicat parce que l'aéro faut jamais en mettre trop, ça se met à couler, ça sèche plus, mais c'est ce qui termine tout l'objet et c'est génial. J'ai bossé sur Gladiator, le film de Ridley Scott, il y a des années. J'ai fabriqué des éléments pour les chars romains qui étaient dans l'arène. J'ai aussi fait un très beau travail pour Jean-Paul Gaultier. On avait monté une équipe, on était une trentaine. On a fabriqué des marionnettes à fil. Monsieur Gaultier venait poser un tailleur sur nos marionnettes. Il disait, ah tiens, il tapait un petit peu sur l'épaule. Il disait, ah, il faut redescendre un peu l'épaule et tout ça. Donc ça, c'était une expérience extraordinaire, ouais.
Aujourd'hui, j'étais...
L'alchimiste du volume.
Sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec, pour ce premier café gourmand de la saison, Fanny Bleffner, José Marigno, Antoine Pecker et Alain Pilot. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Jean-François.
Ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps, mais dans un instant avec vous Fanny, on va parler chiffon.
De la cape des super-héros aux grands créateurs qui s'inspirent eux-mêmes de personnages mythiques, vous verrez que la mode et la bande dessinée s'influencent mutuellement. C'est la thématique d'une exposition qui se tient en ce moment à la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême.
Antoine Pecker, lui, s'est rendu au Festival Berlioz, qui rend hommage aux grands compositeurs romantiques, auteurs de la symphonie fantastique des Troyens ou de la Damnation de Faust. On le retrouvera tout à l'heure, et puis avec vous Alain, on parlera aussi de Thomas Monica, un auteur, compositeur et interprète qui se qualifie d'artisan de musique. Mais pour commencer avec vous, José, vous avez pu rencontrer un grand nom, et même un très grand nom, n'ayant pas peur des mots, de la Brit Pop Rock.
Il s'appelle
Damon Albarn.
Damon Albarn, voilà. Donc un génie
de des efforts,
pop anglaise à la parole très rare, justement. Le chanteur star des groupes Blur et Gorillaz des années 90 multiplie les projets. Et le dernier en date, The Good, The Bad and The Queen, ce n'est pas un groupe de plus, c'est bien plus que ça. C'est un super groupe parce qu'il est composé de légendes et de mythes vivants. Paul Simonon, bassiste des Clash, Tony Allen, batteur de Fela, et le moins connu mais peut-être aussi autant célèbre que les autres, Simon Tong, guitariste de Verve, mondialement connu.
Maryland, le second album de The Good, The Bad and The Queen, produit par Tony Visconti, collaborateur historique s'il en est de David Bowie. Ce disque arrive 12 ans après le premier et actualité oblige, José, il brosse le portrait d'une Angleterre déboussolée à l'heure d'un Brexit qu'on continue d'annoncer comme imminent.
Exactement, il porte un regard désabusé sur un pays qui change radicalement, sur des mélodies mélancoliques à l'atmosphère de fêtes foraines. Damon Albarn ne s'est jamais révélé, aussi engagé et militant.
De façon miraculeuse, ce disque a été bien reçu partout où on l'a joué en Europe. Je suis assez surpris car son langage est dense. Il porte un regard à la fois désabusé et mélancolique sur une Angleterre qui change, qui est déchirée à cause du Brexit, un pays en proie à une certaine forme de division. On l'évoque dans les chansons comme des observations et réflexions sur un pays et un peuple en détresse, un monde en voie de disparition. Clairement, on exprime ce sentiment que nous quittons quelque chose d'important, ce sentiment de perdition et de confusion. Mais ce n'est pas l'horreur, c'est juste une profonde déception. Le disque a cette nostalgie d'une époque révolue, c'est comme une métaphore pour tirer quelque chose de positif de cette grande déception.
Should I stay or should I go? Dois-je partir ou dois-je rester? Chante les Clash en 1981.
Et pour le bassiste du célèbre groupe punk rock, Paul Simonon, c'est bien la question qui se pose aujourd'hui 53 millions de Britanniques.
Should I stay, should I go?
La question maintenant est de savoir si on doit rester ou partir, comme le dit la fameuse chanson des Clash. Vous savez, à l'origine, ma famille est en partie européenne et aussi du Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Donc, au fond, je me sens européen. Donc revenir à la vieille Angleterre, ça ne marchera pas pour un vieux rocker au service de sa majesté comme moi, car il y a trop de belles choses en Europe que j'aime et que j'ai pu apprécier en étant en Angleterre grâce à cette unité européenne.
Et suite au rejet de l'Europe et de l'étranger généré par le référendum, voilà que le Brexit menace de tout chambouler dans un pays, José, dont la singularité est également bâtie sur l'ouverture.
Exactement, sans la colère des Clash ni la rage de Cella, le super groupe chante tout en douceur ses inquiétudes entre tendresse et peine pour défendre bec et ongle la mixité. Dans l'ordre, Damon Albarn, ensuite Paul Simonon.
The band is unique in the sense that
The Good, The Bad and The Queen est un groupe libre et unique dans le sens où ces quatre musiciens d'horizons et pays différents ont toujours fonctionné en échangeant librement ensemble. On se réinvente un avenir chacun avec sa sensibilité culturelle et musicale. C'est unique, vraiment.
On
se répond et parfois on improvise et on ne va pas changer nos personnalités ni les bonnes habitudes. Si Damon Albarn joue quelque chose de beau et bien, je vais essayer de lui répondre avec ma basse en trouvant quelque chose qui l'est moins. Are you still there, or am I losing you? And every moment lost is turning to my heart, puts me on the phone.
Damon Albarn qui déborde d'énergie et qui ne cesse de se renouveler musicalement.
Oui, vedette et tête chercheuse, le londonien de 51 ans rayonne d'une énergie boulimique. Il crée depuis très longtemps donc des ponts entre l'Europe et l'Afrique, disons exactement depuis 30 ans, avec ses collectifs Mali Music et Africa Express.
To feel the essence.
L'Afrique, c'est l'esprit de la musique dans sa forme la plus belle et primaire. J'ai toujours vu l'Afrique comme plus proche du futur que nous. Je me sens dans le futur quand je m'y rends. Et évidemment, notre musique est africaine dans ses origines. Il faut l'écouter, lui donner de l'espace et surtout prendre soin les uns des autres pour la comprendre. La musique est essentielle comme outil d'éducation et moyen de santé mentale. Créer avec d'autres musiciens d'ici ou d'ailleurs, c'est très excitant car on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Mais la magie se produit. Parfois la magie est bizarre, très spéciale, mais ça reste de la magie.
Sometimes it's very particular.
So rebuild the railways, firm up all the roads. No one is leaving now. This is your home, and the horses, the foxes, the sheep and the cows bow down on their knees. To the fanfare of progress, it's always the same.
rock'n'roll contre Brexit, Maryland, le dernier album de Damon Albarn avec The Good, The Bad and The Queen. En attendant son nouveau projet musical inspiré par l'Islande, ce sera à la Philharmonie de Paris le 24 mai 2020. Et vous viendrez peut-être d'ailleurs nous en parler, José.
S'il nous reçoit, évidemment.
Vous vous imaginez peut-être que Gotham City est une ville paisible. Installez-vous confortablement. Retenez votre souffle et préparez-vous à assister à la lutte de Batman contre ses diaboliques adversaires. Le pire de tous, son ennemi numéro un, va bientôt surgir.
Alors pour une fois, c'est moi qui pose les questions, Jean-François. Oui. Quel est le point commun entre Batman et Bécassine?
Bah facile, ce sont deux personnages de BD.
Oui, mais surtout on les reconnaît au premier coup d'œil, quelles que soient leurs aventures respectives. Batman sera vêtu de gris et de noir, avec son masque et sa fameuse cape, tandis que Bécassine porte un costume, bon peut-être un peu moins saillant, un costume picard vert surmonté d'un tablier blanc et d'une coiffe de la même couleur. Ce lien entre la BD et la mode, c'est la thématique qu'a choisi d'explorer la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême. Le commissaire d'exposition Thierry Gonstein nous explique ce choix.
C'est une sorte de miroir, la bande dessinée, qui est tendue à la société et à ses évolutions dans tous les domaines, notamment celui-là. Et il nous est apparu assez rapidement, quand on a commencé à travailler sur cette exposition, que le dessin, c'était un geste qui était commun à l'auteur de bande dessinée et à certains couturiers qui créaient en fait leur collection d'abord sur le papier, avant que les vêtements ne soient taillés dans le tissu. Et donc c'était intéressant de confronter les croquis des uns aux représentations des autres et de voir comment ces images pouvaient dialoguer entre elles.
Et l'exposition s'ouvre ainsi sur des croquis d'études de grands couturiers.
Qui ressemblent un peu à des planches de BD.
Et certains ont même franchi la frontière entre les deux genres. On peut par exemple découvrir une bande dessinée écrite par Yves Saint-Laurent.
Yves Saint-Laurent, c'est le seul couturier qui ait signé officiellement une bande dessinée sous son nom, qu'il ait assumé. Il s'agit de La Vilaine Lulu, un album qui est paru aux éditions Chou en 1967. Les aventures d'une petite fillette plutôt trash, au comportement assez brutal et non conventionnel. Et cet album est devenu une sorte de classique, comme tout ce qui touche à Saint-Laurent. Donc il a connu plusieurs rééditions jusqu'à ce jour. Alors visuellement, c'est en rouge et blanc, donc c'est un album en bichromie avec des dessins assez simples. Lulu est presque toujours présentée de face comme une sorte de petit pantin qui s'animerait, mais elle est extrêmement expressive. Saint-Laurent, qui était connu pour sa grande timidité, fait montre d'un humour très acide en fait dans cet album.
Et puis il y a l'inverse des auteurs de bande dessinée qui côtoient cet autre monde.
Il y a aussi des auteurs de bande dessinée qui ont collaboré à des magazines de mode en tant qu'illustrateurs, et l'un des plus fameux, c'est Lorenzo Mattotti, qui a semé ses dessins de mode dans Vanity, Cosmopolitan, Le New Yorker, etc. Il s'agit de pastels qui sont absolument magnifiques, dans lesquels il réinterprète en fait les collections de l'année des plus grandes maisons de couture.
Voilà, je confirme, un superbe Lorenzo Mattotti. Bon, mais la plupart du temps, Fanny, chacun reste quand même dans son domaine.
L'intérêt pour l'apparence des héros de bande dessinée n'est pas nouveau.
Winsor McCay, c'est un des géants de la bande dessinée américaine, qui est l'auteur d'un grand classique intitulé Little Nemo in Slumberland, publié à partir de 1905, l'histoire d'un petit garçon qui vit ses aventures toutes les nuits en rêve et qui se réveille invariablement dans la dernière case. Alors, quand il se réveille, il est toujours vêtu de la sempiternelle même chemise de nuit blanche, qui est un vêtement complètement passe-partout. On ne sait pas les vêtements qu'il porte dans la journée, puisqu'on ne le voit jamais dans ses activités diurnes, mais par contre, dans ses rêves, il est toujours somptueusement vêtu de panoplies absolument extraordinaires et qui se renouvellent d'épisode en épisode.
Et d'autres auteurs ont même mis la mode au centre de leurs intrigues.
L'une d'entre elles est mise à l'honneur dans l'exposition.
Annie Götzinger est une dessinatrice qui nous a quittés il y a 2 ans et qui a toujours été fascinée par la mode. Elle attachait un soin tout particulier à la manière dont ses héroïnes étaient vêtues, et elle a consacré une sorte de biopic à Christian Dior, en tout cas à sa décennie fabuleuse de 47 à 57, ça s'appelle « Jeune fille en Dior ».
Et plusieurs centaines de dessins originaux d'Annette Gunsinger vont d'ailleurs rentrer dans les collections du musée.
Bon, donc beaucoup de planches de bande dessinée à admirer finalement, et notamment les triplés créés, on s'en souvient, par Nicole Lambert pour Madame Figaro.
Il y a aussi un peu plus original, notamment une réflexion sur ces petites poupées de papier, pardon, dont on pouvait changer les vêtements, et puis quand même des vraies tenues.
Alors, de Thierry Mugler, nous présentons en particulier un vêtement complètement iconique qui est la tenue inspirée par Catwoman, personnage de super-héroïne des comics américains. Donc, une tenue en latex et vinyle noir de femme un peu vénéneuse, femme fatale. Ça montre que l'imaginaire de la bande dessinée, des super-héros, mais pas que, a inspiré toute une génération de créateurs de mode. On peut citer Mugler, mais aussi Castelbajac, Gautier, Moschino, etc.
Et dans cette même salle, on trouve aussi des vêtements de ligne de prêt-à-porter très courantes qui, elles aussi, ont pu s'inspirer de ces super-héros.
C'est aussi une façon de ne pas prendre tout ça trop au sérieux.
Bien sûr, la bande dessinée, elle a célébré souvent l'élégance, mais elle s'est aussi moquée de la mode, elle s'est moquée des fashion victims, elle s'est moquée de la frivolité des femmes, elle s'est moquée de certains accessoires de mode, en particulier les chapeaux extravagants, les corsets, les crinolines. Ça a excité de tout temps la verve des caricaturistes.
Bon, et puis il faut quand même que je vous le dise, l'exposition se termine par une étrange toute petite salle, un peu surprenante et à l'abri des regards des enfants.
Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?
Bon, alors contre toute attente pour une exposition consacrée à la mode, essentiellement des corps dénudés.
Ben oui, il nous a semblé amusant de montrer que dans la bande dessinée érotique, où évidemment les personnages sont souvent représentés sans beaucoup de vêtements sur eux, il y avait quand même une inventivité particulière qui se déployait à travers de la soie, de la dentelle, des accessoires fétichistes, du cuir, etc. Et que, en fait, les grands auteurs de bande dessinée érotique étaient souvent très attachés justement à ces vêtements et particulièrement inventifs dans le domaine.
Voilà, l'exposition mode et bande dessinée à découvrir jusqu'au 5 janvier 2020 à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Merci Fanny. Alors tout à l'heure vous m'avez posé une question, à mon tour de vous en poser une, Fanny. Vous avez vu les Aristochats de Walt Disney, évidemment.
Oui, évidemment.
Est-ce que vous vous souvenez du plus jeune chaton de Duchesse, celui qui a le petit nœud rose autour du cou? Il s'appelait comment?
Alors il y a Marie, il y a Toulouse et le plus jeune c'est Berlioz.
C'est Berlioz, exactement Fanny, vous êtes absolument incollable. Marie en hommage à Maria Callas, la cantatrice, Toulouse en référence au peintre Toulouse-Lautrec, et donc Berlioz. Et pour rendre hommage au compositeur français, un festival Berlioz se tient jusqu'à dimanche à la Côte-Saint-André avec une programmation d'ampleur, Antoine Péqueur.
Cette édition du festival commémore Jean-François les 150 ans de la mort d'Hector Berlioz, qui est né ici à la Côte-Saint-André, au cœur du Dauphiné. Et pour cet anniversaire, près de 80 manifestations sont proposées au public. Le directeur du festival Berlioz, Bruno Messina, nous explique comment il a conçu cette programmation.
On est dans le village de Berlioz, là où il a grandi, avec ce mystère Berlioz, qui fait qu'il n'a pas eu d'éducation musicale, qu'il commence quand il arrive à 18 ans à Paris, vraiment à aller à l'opéra, et à 20 ans à rejoindre le conservatoire. Mais donc tout ça arrive très tardivement, et dans ce village où on n'a pas entendu sa musique, ses parents n'ont pas entendu, je voulais qu'on en entende le maximum, donc ça s'est travaillé sur plusieurs années en amont pour arriver à ce résultat, d'avoir la damnation de Faust, Roméo et Juliette, Benvenuto Cellini, la prise de Troie, voilà, on a tous les grandes œuvres berlioziennes, et en même temps une grande fête populaire, parce que ce qui m'importait, c'était que les Côtois, que les gens de l'Isère fêtent avec nous l'anniversaire de l'enfant du pays.
Les concerts se déroulent dans un site historique, la cour d'un château, aménagé acoustiquement pour les concerts, Bruno Messina.
C'est un effet tout à fait étonnant quand on est en haut des gradins. C'est un des rares festivals où on peut jouer la scène au chant de la Symphonie Fantastique ou la Pastorale de Beethoven en voyant paître des vaches sur la montagne. C'est absolument charmant, et c'est un petit peu le village et la plaine autour a très peu bougé depuis l'époque de Berlioz, alors que le paysage a beaucoup bougé. Vous voyez, Grenoble, ça s'est multiplié par 20 par rapport à l'époque. À l'époque de Berlioz, il y avait 4000 habitants dans le bourg avec ses alentours. Aujourd'hui, il y en a 5000. Donc, vous voyez, le paysage a très peu été modifié. Ça, c'est aussi un peu la magie de ce lieu.
C'est une œuvre de circonstance que l'on entend, Antoine.
En pleine soirée caniculaire, rien de mieux en effet que les nuits d'été de Berlioz sur des mélodies de Théophile Gautier. La chanteuse Stéphanie Doustra, qui interprète ce cycle, apprécie la démarche du festival.
Ce village respire totalement, je dirais, autour de Berlioz, et c'est vrai à utiliser, je dirais, Berlioz et sa présence il y a de nombreuses années, et maintenant le faire revivre, parce que malgré tout Berlioz est quand même, a été pendant très longtemps assez méconnu en France. Donc c'est très très agréable, et c'est c'est enthousiasmant de voir un peu la chaleur et la ferveur autour de Berlioz ici.
Ce sont sont les artistes britanniques qui ont été parmi les premiers défenseurs de la musique de Berlioz. L'orchestre de chambre de Paris, qui accompagne la chanteuse Stéphanie Doustrac, est justement dirigé par le chef Douglas Boyd. Il nous dit ce qu'il aime dans cette musique.
Il est un révolutionnaire. Et peut-être c'est pourquoi, en particulier, les musiciens d'Angleterre, d'Écosse, pour moi, de Grande-Bretagne, adorent cette musique parce que je crois que Berlioz est un non-conformiste et nous aimons les non-conformistes. On dit maverick en anglais. Et Berlioz, crée un monde extraordinaire. Et je crois qu'il exprime toutes les émotions d'esprit humain.
Et dans ce festival, Antoine, sont aussi programmées des œuvres d'autres compositeurs. Il n'y a pas que du Berlioz.
Le festival met en regard l'œuvre de Berlioz face à celle des compositeurs de son époque, par exemple Mendelssohn, avec l'ouverture du Songe d'une nuit d'été. Toute l'originalité du festival est aussi de mettre en miroir la musique de Berlioz avec des créations contemporaines. Le cycle des nuits d'été était ainsi confronté à un autre cycle de nuits d'été composé pour l'occasion par le jeune compositeur Arthur Lavandier. Arthur Lavandier a composé ce cycle de mélodies d'après des poèmes de Frédéric Boyer. Il nous explique sa démarche.
J'ai essayé de créer une musique, un environnement musical comme ça, très varié. En même temps, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez subtil, d'assez discret et surtout de très sensible parce que pour moi, voilà, les nuits d'été, c'est la musique de Berlioz dans toute sa sensibilité. C'est ce travail incroyable entre une orchestration extrêmement riche et pourtant extrêmement douce qui vient porter la voix.
Et le ministre de la Culture, Franck Riester, s'est rendu ce jeudi au festival. Le directeur du festival, Berlioz, en a profité, Antoine, pour lui faire passer un petit message.
Bruno Messina souhaite profiter des 150 ans de la mort de Berlioz pour le faire entrer au Panthéon. Ce serait la première fois qu'un compositeur y ferait son entrée.
C'est une image de la France, hein. Le Panthéon, c'est bien, à ces grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est incontestablement un des grands hommes de la patrie. C'est quelqu'un qui accompagne la France dans post-révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est un homme de la modernité, c'est un homme du 19e siècle, c'était un alter ego, un géant, comme Hugo en littérature. Il y a cette trinité romantique, Delacroix, Hugo et Berlioz pour la musique. C'est le réformateur de l'orchestre, il y a un avant et un après Berlioz.
C'est maintenant à Emmanuel Macron de décider ou non de faire entrer celui qui est peut-être le plus grand compositeur français de l'histoire de la musique au Panthéon.
Antoine Pecker pour VMDN, le festival Berlioz se poursuit encore ce week-end à la Côte-Saint-André dans le Dauphiné. Round sur RFI, Thomas Monica, et comme on n'aura pas le temps d'écouter cet album entièrement Alain et que l'idée donnait envie à nos auditeurs de s'y plonger de leur côté, vous avez demandé au chanteur de nous le résumer musicalement.
En nous disant ce que serait la BO de cet opus baptisé Le Paradoxe de Luther.
Ça pourrait être un mélange de Lost in Translation, un super film, c'est très varié. Ça pourrait être le concerto numéro 3 de Rachmaninov, qui est un de mes concertos préférés. Ça pourrait être un mélange de musique classique, de musique arabe, de chansons françaises. C'est plein de choses différentes, en fait, je pense, cet album. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est un peu à part. Il mélange beaucoup de choses différentes.
Pour l'intitulé de ce disque, Le Paradoxe de Luther, Thomas Monica est tombé sur une revue scientifique dans laquelle un chercheur expliquait ce qu'était le paradoxe de Luther, cet état d'Amérique qui est celui qui est à la fois le plus joyeux et le plus triste et où le taux de dépression est très élevé. Il a fait un parallèle avec la vie, l'ascenseur émotionnel de la vie, avec ses hauts et ses bas.
Et vous le disiez, Alain, Thomas Monica a un petit côté proustien puisqu'il fait référence dans ses textes à son asthme.
Via ses mots, j'ai le souffle court, mais pas les idées. Alors, quelle incidence cette maladie peut-elle avoir sur son chant?
Je sais pas si ça a une incidence réelle, mais en tout cas ça fait partie de toute mon enfance et j'avais envie de parler d'une chanson sur l'asthme de manière poétique, tout simplement.
Quel rapport entretenez-vous avec la psalmodie?
C'est une bonne question. C'est des chants un peu... Alors ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée encore. Je sais pas si j'entretiens des relations avec la psalmodie, mais en tout cas, j'aime ces chants un peu étranges, voilà, tout simplement. C'est une question très difficile.
Je navigue dans les cieux, toujours à contre-courant. C'est inutile. Mais percute-moi l'orage qu'on a en toi. Je grève des cœurs, c'est inutile. Prends-en deux et tu l'auras ton coup de foudre. Et sois-ce pour des pleurs.
Thomas Monica, où est le son sur la rue ?
Inspiré par le chant d'une baleine, Thomas Monica, sélectionné à ses débuts parmi 800 guitaristes à un concours organisé par Mathieu Chédid qui l'emmène dans sa tournée des Zéniths de France. C'est à ce moment-là que Thomas Monica se sent libre pour être lui aussi chanteur. Un chanteur qui, en 2015, pensait qu'il fallait être consensuel sur disque. Qu'en est-il 4 ans plus tard ?
Je pense que c'est tout l'inverse, finalement. Je pense qu'il faut... Ouais, je pense qu'en 2015, j'étais peut-être dans une idée de... Justement, de me ranger dans quelque chose qu'on me proposait aussi de faire à l'époque, c'est-à-dire voilà, parce qu'après après ce concours avec Mathieu Chédid, j'ai eu beaucoup d'allers-retours avec des directeurs artistiques ou des choses comme ça. Je pense que tout artiste peut connaître cette expérience de se retrouver dans un bureau et de devoir présenter des maquettes et on nous dit c'est peut-être pas assez comme ça en ce moment, tu sais, c'est plus comme ça que ça se fait, voilà, et du coup peut-être que je m'étais mis dans cette idée-là et finalement je suis retourné 100% moi. Voilà.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Et un avis sur la chanson française, il en a un, mais pas vraiment optimiste.
Au moment où il est question de l'enseignement qu'il tire des nombreuses premières parties qu'il a assurées.
Ça m'a enseigné que la chanson française en ce moment n'est pas spécialement toujours... C'est pas la musique la plus à la mode du moment. Voilà, parfois on a eu quelques frayeurs sur le remplissage de salles. Voilà, faut dire la vérité. Ça m'a enseigné aussi... ça m'a enseigné d'ouvrir pour des super artistes comme Radio Elvis ou comme Alex Baupin, que je trouve qui écrit merveilleusement bien. Mais ça nous fait prendre conscience aussi qu'en ce moment, la musique, la vraie chanson française, elle est un petit peu en perdition, on va dire. C'est pas ce qui remplit le plus les salles en ce moment.
Forever, Thomas Monica, qui a des origines italiennes et algériennes.
Aux Entrelacs, avec cette guitare espagnole, voire flamenca, par moments, parle de son grand-père algérien qui l'a élevé dans une culture très différente. Que lui a-t-il inculqué ?
Le respect de l'autre, je pense, principalement, parce que j'ai grandi dans un environnement multiculturel, c'est-à-dire avec une grand-mère qui parle italien, pas très français, un grand-père qui parle arabe et pas très français non plus. Et donc je pense que ça m'a appris, par rapport à certains de mes amis à l'époque, le respect des cultures d'autrui, en fait, qui n'est pas forcément évident qu'on négocie.
Merci infiniment, Thomas Monica, et paix et amour, comme vous l'écrivez à chaque fin de vos posts.
Merci beaucoup, Alain, pour l'interview.
Cette haine qui régit nos degrés d'origine, tu as trop de peur en toi, tu es rose qui te mène aux entrelacs de nos adhères, notre foi.
Aux Entrelacs, Thomas Monica, extrait de son nouvel album Le Paradoxe de l'Utah. Merci Alain, merci également à Fanny, Antoine et José.
Je voulais qu'il me parle de ses longs voyages en bateau en Corée, en Corée. Avec mes yeux d'enfant, il me semblait être millénaire. Il avait connu, je crois, l'enfer de la guerre. Il me parlait de la couleur du sable et des dégâts lourds de Biscra. Les dates sur son avant-bras comme des vestiges de prisonniers qu'il ne montrait pas.
Dans un instant, le journal sur RFI, on se retrouve lundi pour évoquer un des écrivains philosophes les plus libres et les plus francs-tireurs qui soit, Voltaire. Avec deux auteurs de BD, Philippe Richel et Jean-Michel Beuriot, ils publient un album intitulé « Voltaire, le culte de l'ironie » chez Casterman. Un album que vous pourrez gagner d'ailleurs en répondant à une question dont la réponse sera cachée dans l'émission. Je pense que vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Bon week-end, à lundi donc, et vous m'en direz des nouvelles.